L'esprit critique. Mediapart.
Direct Action est un documentaire co-signé par le réalisateur américain Ben Russell et le français Guillaume Caillot qui se sont immergés pendant 2 ans dans la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Le film n'a pas encore de date de sortie en France, mais il a été montré à la Berlinale où il a obtenu le prix du meilleur film dans la section découverte et aussi hérité d'un début de polémique après que Ben Russell a dénoncé un génocide à Gaza. Il a également été présenté dans le cadre du Festival du Réel qui se déroule à Paris. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le titre en première approche, le film n'est pas un film d'action, du moins dans le sens où on entend habituellement ce terme, et il s'inscrit même moins dans la tradition documentaire dite du cinéma direct que dans celle de l'immersion propre à des cinéastes comme Frédéric Wiseman par exemple. Alors le film dure plus de 3h30 et il est principalement constitué par des plans fixes de plusieurs minutes, hein, que ce soit sur l'affûtage d'une tronçonneuse, une partie d'échecs, un vol de drone, un concert militant, un anniversaire d'enfant, un ballet de crêpes ou un labourage de champ. Qu'est-ce que vous avez pensé, Alice Leroy, de ce choix esthétique pour le moins radical, hypnotique ou somnifère ?
C'est intéressant parce qu'effectivement le film n'est pas un film militant au sens où il s'agit pas d'un film d'agit-prop ou d'un film qui inviterait à l'action directe au sens où on pourrait l'entendre comme une action violente. Et il se situe pas non plus, je crois, dans une tradition qui serait celle d'un cinéma direct. Par exemple, à la façon de Wiseman. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'il y a quelque chose dans cette manière de ne pas, par exemple, de refuser l'interview, de refuser aussi tout ce qui serait apparemment de l'ordre de la mise en scène ou de l'intervention, qui pourrait rattacher le film à un cinéma d'observation qui est dans la tradition de Frédéric Wiseman. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus formaliste dans cette série, parce qu'on peut dire que le film dure à peu près 3h30 et il est constitué d'un ensemble de plans séquences, souvent en plan fixe, documente des gestes de travail quotidien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Je crois qu'il a été tourné sur une durée d'un an et demi, après donc la victoire des zadistes, puisque la lutte contre la construction de l'aéroport est à ce moment-là terminée. Et d'une certaine manière, dans le choix de ces plans-séquences et de leur durée, souvent assez longue, parfois éprouvante, il y a quelque chose qui raconte aussi une certaine manière de faire du cinéma, non pas simplement pour documenter ou observer la réalité, mais vraiment pour y participer de manière très littérale. C'est-à-dire qu'il y a un rapport au travail dans ce qu'il engage en termes de gestes, de durée, de temps et d'investissement. Et je crois d'ailleurs que les cinéastes racontent qu'ils ont passé pas mal de temps à la ZAD et qu'ils ont eux-mêmes contribué à ce quotidien de la ZAD et du travail de la terre, du travail de la collectivité, etc.
Mais complètement, le film s'apparente plus à un manuel de retour à la terre qu'à effectivement un guide d'action politique, parce que moi, en regardant ce film, j'ai pensé à ces vidéos qu'on trouve justement qu'on trouvait au musée des arts et traditions populaires, qu'on trouve maintenant au MUCEM. C'est toutes ces vidéos en plan fixe sur des gestes, donc c'est la quasi-totalité de ces plans fixes qui sont montés les uns après les autres, aussi à la manière de Notre pain quotidien, qui était un film, si je ne dis pas de bêtises, autrichien, je crois, qui est sur l'agroalimentaire. Donc on est dans cette...
Il n'y avait aucun personnage et on voyait juste...
C'est ça, aucun commentaire, aucun personnage et des plans fixes qui s'accumulent les uns après les autres. Et ici aussi, donc c'est cette manière de filmer les gestes, les savoir-faire, c'est-à-dire faire du pain, labourer, replanter, s'offre comme... Parce que moi je me suis demandé, mais finalement c'est quoi l'usage de ce film ? Qu'est-ce qu'on peut en faire de ces 3h30 ?
Oui, une fois qu'on se dit que c'est autre chose que le contre-pied du film militant ou du film spectaculaire d'affrontement entre les zadistes et la police, ça s'ouvre quand même dessus et ça se termine dessus.
On peut se dire que c'est un témoignage, c'est un document d'archives, c'est un témoignage de la vie à Notre-Dame-des-Landes après la victoire et une partie à la fin sur la manifestation à Sainte-Soline. Un document qui documente les luttes. Alors là, en ce sens, c'est un film militant pour cette raison-là, mais pas dans sa forme, pour son usage. Et ensuite, je dirais que c'est quand même plus un document qui permettrait à un groupe qui souhaiterait retourner à la terre de savoir utiliser les outils de l'agriculture traditionnelle, qui permettrait de savoir comment planter, comment on retire des insectes, des plantes pour qu'elles tiennent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'intérêt du film, il se trouve aussi là, c'est-à-dire il se trouve dans l'expérience de Notre-Dame-des-Landes après la lutte. Il est quasiment, il y a quelques séquences hein, d'organisation d'études, de se préparer par exemple à un interrogatoire de police au tout début du film, mais l'intérêt du film n'est pas là, même si le plaisir du film est quand même là, parce que tous ces plans sont silencieux pour la plupart, et donc la moindre action, si vous voulez, c'est un film qui nous rend très sensible à la moindre action et au moindre dialogue. Et donc dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'il y a un discours, notre attention est d'autant plus affûtée et on a grand plaisir à entendre une organisation de manifestation, un concert de punk, un enregistrement de morceaux de rap. Et c'est aussi là le film politique, c'est-à-dire qu'on est prêt quand même à, justement, non pas à agir, mais à recevoir l'action.
Raphaël Neuillard, sur ces questions, effectivement, sur le côté sensible, je pense que si je citais Wiseman, c'est aussi parce qu'on a l'impression qu'il y a une attention très particulière au son, qui des fois, c'est un film autant à entendre, que ce soit le son de la pluie, le son, alors ça peut être aussi d'une chanson de rap militant, mais on l'entend en entier, ce qui n'arrive jamais dans un film habituel,
on entend
une chanson de bout à bout. Et sur aussi le fait que pour aussi peu de plans sur une aussi longue durée, ça nous oblige à regarder, à penser vraiment le cadrage. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Oui, alors je suis désolé Joseph, mais je vais contredire aussi cette référence à Wiseman, parce que pour moi c'est vraiment absolument l'anti-Wiseman. C'est un film qui, au fond, aurait pu être tourné n'importe où, et qui est paradoxalement presque hors sol. C'est-à-dire qu'on peut filmer 5 minutes durant des mains qui transforment de l'eau et de la farine en pain, mais ça ne dit rien de Notre-Dame-des-Landes. L'intérêt de Notre-Dame-des-Landes, c'est pas qu'on y fasse cuire des crêpes ou qu'on y plante des haricots, c'est les relations entre les gens qui habitent là. Et à aucun moment, on a l'idée d'une relation entre les habitants. Il y a un plan très long en drone où on entreaperçoit un peu le paysage, les différents hameaux, mais c'est encore une fois, c'est un plan aérien qui ne dit rien des relations des gens qui habitent là. Alors effectivement, après, il y a la question du cadrage. D'une certaine manière, la pâte à pain, c'est presque, on pourrait dire si on est méchant, le symptôme, ou en tout cas l'image du film, c'est-à-dire qu'on attend que quelque chose prenne. Et le problème, c'est que tous les plans sont construits de la même manière. On arrive dans un nouveau plan et on sait qu'on va devoir attendre 2, 3, 4 minutes pour que quelque chose prenne. Alors, ça n'enlève pas la qualité et l'intelligence du cadrage, qui est que justement, il y a presque toujours une sorte de petit miracle qui fait que quelque chose se passe. Sauf que cette durée et ce mécanisme est réitéré pendant 3h30. Et pendant 3h30, on sait qu'une fois qu'il y a un nouveau plan qui commence, on va devoir attendre un certain temps, dire « Ah bah voilà, ok, il y a quelque chose qui a fini par prendre ». Et c'est vraiment, il y a quelque chose en termes de cadrage que je trouve presque autoritaire, parce que très souvent, et c'est sans doute aussi pour ça qu'il vaut mieux voir le film en salle, parce qu'en salle, on est coincé par le dispositif de la salle, et moi il se trouve que je l'ai vu sur ordinateur. Et là, on peut faire une sorte d'épreuve de la liberté ou non, c'est à quel moment on se dit « bon, ok, le plan a trop duré ». Il y a quelque chose d'autoritaire dans le cadrage même, et très souvent on se dit « mais au fond, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de montrer le lieu où le type pétrit le pain ? Qu'est-ce que ça lui aurait coûté de montrer le visage qui est au bout de ses deux mains qui sont en train de pétrir le pain.
Pour le coup, ça pose la question de la confidentialité et des risques.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas évident de faire des images à Notre-Dame-des-Landes. Il y a un rapport à l'image, à l'anonymat qui est très important. Et donc, je pense qu'il y a aussi, c'est une forme de réponse pratique à des exigences politiques.
Là, je suis pas sûr, parce que quand on fait du pain ou quand on plante. Ici, dans les circonstances qui sont celles-là, c'est pas une occupation illégale.
Non, mais des gens qui viennent d'occupation illégale et qu'on construit tout un ethos, hein, plus qu'un discours sur la possibilité de ne pas être filmé, désigné.
De ne pas avoir de preuves contre eux de l'occupation de tel territoire à tel moment.
Oui, mais après, il y a la manifestation de Sainte-Soline, on voit les visages. Il y a plein de moments où on voit les visages. Et on ne peut pas dire que c'est simplement par défaut qu'ils qui décide de cadrer un sou en plastique pendant 5 minutes plutôt que de cadrer les corps. Donc c'est vraiment la question de... Et très souvent, alors encore une fois, les plans sont, ne sont pas nuls. Je suis assez virulent, mais le film a évidemment des grandes qualités. Mais très souvent, on se dit, mais au fond, pourquoi est-ce que c'est aussi serré? Ou pourquoi est-ce que c'est aussi large? Parce qu'il y a aussi le contre-coup de ça, c'est la caméra qui est en retrait et qui va filmer... Enfin, en tout cas, l'action se passe derrière un mur. On voit l'encadrement d'une porte, on aperçoit quelqu'un qui rentre, qui sort, qui passe. Quel est le sens de se placer à cet endroit-là? Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que finalement, le cadre vaut comme cadre pour dire, bon ben voilà, j'ai cadré et je vais rester là pendant 5 minutes. Alors effectivement, parfois, il se passe quelque chose. Mais il y a quand même, je trouve qu'il y a quand même une forme d'autoritarisme, disons, dans cette manière de cadrer.
Alice Leroy, et notamment cette question alors, qui, à travers l'anonymat, pose la question des corps et effectivement des relations. Et aussi de... Parce que donc le film, hein, il faut dire, se place après la victoire donc, contre l'aéroport. Et est-ce qu'il n'est pas un peu irénique de ce point de vue? C'est-à-dire que on sait bien que l'aéroport a aussi permis de souder des paysans avec des jeunes qui n'avaient rien à voir au départ avec la terre, et que la disparition de l'ennemi commun a aussi créé des tensions qui, elles, là, sont pas du tout visibles.
Oui, c'est intéressant ce que disait Raphaël sur l'agacement que peut provoquer le film. Moi, je l'ai vu en salle à Berlin et j'avoue que je pense que j'ai pas du tout eu la même expérience, même si je dois dire que j'étais parfois un peu agacée par la durée de certains plans que moi, si j'avais monté le film, j'aurais coupé beaucoup plus tôt, et alors que j'en aurais laissé d'autres durer plus longtemps. Mais je comprends parfaitement l'agacement qu'on peut ressentir vis-à-vis d'un geste formaliste qui peut apparaître parfois aussi comme une sorte de posture, voire d'imposture en fait, dans son rapport au lieu et au collectif, parce que effectivement, se concentrer sur les gestes, sur le travail des mains, cadrer un certain type d'action en évitant la parole, c'est aussi éviter tout ce qui fait aussi la conflictualité, la vie sociale à l'intérieur d'une communauté, et dont on imagine assez aisément à la ZAD qu'elle n'est pas faite uniquement d'harmonie et de goûter de crêpes, quoi. Et en fait, il me semble qu'effectivement, le film en fait, arrive à un moment intéressant, parce que dans la première séquence, si je me souviens bien, on filme en 16 mm un écran d'ordinateur où une voix nous guide à travers des archives vidéo du mouvement. Donc on retraverse les 10 années du mouvement en quelques minutes et en quelques clips vidéo très brefs qui nous montrent les défaites et les victoires et voilà, les moments de joie et d'épuisement. Et tout ça est balayé en une séquence, et ensuite on entre dans une autre temporalité, alors qui n'est pas juste celle de la vie de la ZAD, qui est encore une temporalité de lutte, mais dans une autre échelle, on pourrait dire, hein, qui est celle de qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on n'a plus d'ennemis communs? Qu'est-ce qu'on invente comme quotidien possible pour nous? Et peut-être qu'à cet endroit-là, le film peut se révéler un peu déceptif, parce qu'en fait, il n'entre pas dans les enjeux politiques. Et je trouve que même parfois, il est un petit peu complaisant quand, par exemple, il montre une jeune femme qui est en train d'aiguiser sa tronçonneuse, enfin, qui montre cette question de la répartition genrée des tâches, qui questionne aussi... les assignations d'identité et le rapport au travail, et qu'au fond, en fait, il ne rentre pas tellement dans la question de qu'est-ce que c'est qu'une vie communautaire. Alors même que c'est aussi un des sujets du travail de Ben Russell, cinéaste, qui a beaucoup filmé, qui s'est beaucoup intéressé à la question de l'utopie, des communautés rurales, et qu'au fond, en fait, il aborde jamais les tensions qui traversent aussi ces communautés.
Mais est-ce que c'est pas aussi, Salima Tenfish, parce qu'il est tenu par, au fond, un discours assez simple, qui est qu'il s'appelle Action Directe, et qu'il nous dit, au fond, aujourd'hui, l'action directe, c'est pas simplement d'affronter les autorités, ou en tout cas pas seulement d'affronter les autorités, mais juste de ralentir.
Complètement, et de retourner à la terre. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que sur ce qui est des relations et de la façon dont s'organisent les différents groupes, les différents collectifs qui vivent sur la ZAD libérée, on pourrait dire, la ZAD libre, je suis tout à fait d'accord, je partage tout à fait ce que disait Raphaël, et c'est effectivement ce dispositif de montage images de fragment après fragment qui rend impossible la visibilité des interactions. Sauf que le film se termine par une apothéose de relations, justement. C'est-à-dire que les rares séquences qui mettent en scène des humains en action et pas simplement, des corps en action et pas simplement des gestes de détail, des mains, nous donnent toute satisfaction et justement nous donnent le plaisir de constater ce que peut le groupe ensemble et rendre visible l'entraide, la solidarité dans ces gestes de militants qui aident d'autres à passer un fossé. Donc on peut dire c'est un geste symbolique bien sûr, mais qui rend compte justement de cette solidarité. Et on en a tellement peu vu, c'est-à-dire on a tellement vu que des fragments, que des morceaux de corps pendant toutes les 3 heures quasiment du film, qu'à l'instant où des gens sont ensemble, on vit d'autant plus cette solidarité. Il y a aussi cette petite séquence, juste pour la nommer, qui a l'air d'être tout à fait banale, et cette banalité elle rend compte aussi de ce qu'est la vie en fait. C'est-à-dire, l'action directe, c'est aussi juste de vivre lentement et de retrouver des gestes, des savoir-faire artisanaux qui ne sont pas industriels et qui ne sont pas externalisés.
Ouais. Alice, puis Raphaël, rapidement.
Et en même temps, cette solidarité dont parlait Salima, elle est quand même... Elle intervient à un moment où, tout à coup, la violence fait retour de manière inouïe, puisqu'on est à Sainte-Soline, hein, et qu'on est vraiment au milieu des affrontements avec la police, et que tout à coup, on se rend compte que ce moment voilà, de retour à la terre, etc., en fait, il est quand même pris dans des dynamiques d'ultra-répression, etc.
Effectivement, ce qui est assez beau aussi, c'est justement le moment où la ZAD de Notre-Dame fait la jonction entre guillemets avec Sainte-Soline et que les gens qui auraient pu continuer à faire leur pain et leur crêpe se retrouvent impliqués dans un autre combat et qu'il y a cette forme de continuité ou de plasticité entre les moments du quotidien et puis les moments de lutte plus directe pour le coup. Et ce plan, c'est pratiquement la fin, mais effectivement ce moment d'affrontement qui est vu à distance, mais dont on comprend bien qu'il est très violent et qui en même temps réitère cette mise en scène dont on a l'habitude de l'action directe, cet affrontement direct avec les forces de l'ordre, qui est toujours un moment spectaculaire et en même temps dont on mesure peut-être le côté aussi un peu vain. On mesure à ce moment-là aussi effectivement la force de la répression dans la durée de ce plan et dans le... cet embrumement comme ça sous les gaz qui apparaît.
Direct Action de Ben Russell et Guillaume Caillot, c'était visible tout récemment au Festival Cinéma du Réel et se devrait prochainement sortir en salle. Merci beaucoup à tous les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé aujourd'hui par Samuel Hirsch.
L'Esprit Critique. Mediapart.